Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Bienvenue sur Build Yourself, votre ressource pour tout ce qui est marketing en ligne et podcasting. Je suis votre hôte, Safia, ancienne juriste devenue entrepreneur du web. Je vous aide à faire du podcast le meilleur atout de votre business, un support pour atteindre plus de monde et devenir la référence dans votre domaine. Téléchargez mon guide gratuit pour découvrir les 3 étapes indispensables pour lancer son podcast, disponible à l'adresse safiagourari.fr/guide. Et maintenant, abonnez-vous pour ne pas manquer un épisode, installez-vous confortablement et préparez-vous à enfin changer les choses. Ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Build Yourself où on va vous partager quelques astuces pour rédiger un contenu impactant. Aujourd'hui, j'accueille Ingrid, que vous connaissez peut-être sous le pseudo « J'écris un roman ». Elle est la fondatrice du podcast « Le Café des auteurs ». Et notamment de l'école Les Explorateurs, qui aide les écrivains à aller au bout de leur projet et à écrire leurs livres avec confiance. Alors j'ai convié Ingrid aujourd'hui pour nous partager quelques astuces pour mieux rédiger nos contenus, que ce soit des publications Instagram, des newsletters, des scripts d'épisodes de podcast ou d'articles de blog, absolument tout ce que vous voulez. Ingrid a 4 astuces à nous partager pour rendre notre contenu beaucoup plus impactant, pour scotcher les gens, pour marquer les esprits. Alors avant de passer à l'épisode, je voulais faire une annonce d'intérêt général. Les inscriptions à Build Your Podcast sont actuellement ouvertes et ce jusqu'au lundi 17 mai 20h. Donc si vous avez pour projet de lancer un podcast, que vous avez envie de gagner en visibilité et de faire connaître vos offres mais que vous ne savez pas comment faire et que vous avez envie de bien faire les choses, eh bien pourquoi pas rejoindre mon programme. Alors vous avez un accès à vie et vous apprendrez absolument tout mon process d'un point de vue très pratique, de l'idée à la monétisation du podcast. Donc je vous apprends tout, comment enregistrer, comment vous faire connaître, comment mettre en place la stratégie, la monétisation, les interviews et tout le tralala. Si vous avez envie d'en savoir plus, je vous invite à cliquer sur le lien disponible dans les notes de cet épisode ou à vous rendre directement sur school.safiagourari.fr/buildyourpodcast. Et maintenant, on va passer directement au contenu de cet épisode où vous allez concrètement découvrir 4 astuces que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui dans la rédaction de vos contenus. Salut Ingrid, bienvenue dans Build Yourself.
Hello. Merci.
Comment vas-tu?
Bah ça va super. Très contente d'être là.
Bah merci, en tout cas, ça me fait plaisir que tu aies accepté de venir pour nous partager tes meilleures astuces d'écrivaine pour notre contenu. C'est quoi ta relation avec l'écriture? Est-ce qu'il y a eu une période de ta vie où tu l'as découverte et où ça a été genre une révélation? Ou est-ce que depuis toute petite, déjà, tu as un attrait pour l'écriture?
Alors, option toute petite. Quand j'étais petite, je faisais des magazines, des journaux pour tout le monde. Mais c'est vrai que j'ai un peu délaissé ma passion pour l'écriture quand j'ai fait mes études. Et elle est revenue en force quand j'ai démissionné pour faire le tour du monde et que je me suis mise à écrire des carnets de voyage. Je ne pouvais plus m'arrêter. Et en plus, je l'ai publié. j'avais des proches qui me lisaient, qui disaient que j'avais une super plume, et ça avait fait partie un peu du déclic de « Ah, mais en fait, ça, ce qui compte, c'est pas forcément ce que tu racontes, c'est comment tu le racontes aussi. »
Ouais, c'est vrai que, en fait, on pense pas à ça. On se dit « L'écriture, c'est un talent. Tu l'as ou tu l'as pas. » Tu vois, c'est bizarre, hein. Mais on a cette idée que écrire un livre, c'est pas à la portée de tous.
Ouais, mais c'est clair. Et je pense que c'est surtout francophone comme mentalité. Pour nous, un écrivain, c'est Victor Hugo, alors que pas du tout.
Exactement.
Quand tu vas aux États-Unis, il y a l'art de créer une histoire, il y a des noms, il y a des méthodes, etc. Et effectivement, nous, on a encore cette vieille image. Et du coup, c'est hyper difficile pour les jeunes écrivains qui se lancent de se sentir légitime et de prendre confiance en eux.
Carrément, je te rejoins complètement là-dessus. Alors, est-ce que tu peux me dire quel est ton parcours professionnel et ce que tu fais aujourd'hui?
Oui, parce qu'il y a eu un petit décalage, parce que mon parcours pro, c'est que j'ai commencé comme ingénieur dans l'énergie pendant 6 ans. Et un jour, en fait, j'avais quand même très envie de faire le tour du monde, et un jour, j'ai demandé à mon employeur un petit congé sabbatique pour faire le tour du monde, et ils m'ont dit non. Et ça a été le premier gros déclic pour moi, parce que là, j'ai vraiment entendu la voix qui me disait « Eh ben, tu démissionnes alors, parce que c'est pas ça que tu as envie de faire, en fait. » Et le tour du monde a été un peu un point de départ d'un long chemin, parce que j'ai mis du temps à trouver ma voie aussi. Je ne pensais pas que j'apprendrais à des personnes à écrire un jour, parce qu'il a d'abord fallu que je me remette moi à l'écriture et que je me sente légitime. Et ça, c'était un petit peu justement pendant ce voyage. Et au retour de mon voyage, il fallait bien que je mette du beurre dans mes épinards. Donc, j'ai continué à faire des missions d'ingénierie tout en cherchant ce que j'allais faire. Je voulais vraiment être indépendante, je voulais avoir une liberté de voyager. Et j'ai découvert un podcast super sympa qui s'appelle Build Yourself. Et vraiment, c'était un de mes gros déclics de me dire, mais que, entre guillemets, toi aussi, tu es parti un peu d'un point de départ comme moi, avec pas forcément grand-chose, et avec de la bonne volonté, du travail, on pouvait y arriver, on pouvait créer, trouver sa voie, quoi. Et je me suis donc orientée d'abord vers le coaching. Moi, le coaching, c'était quelque chose qui me parlait beaucoup, parce que quelque chose que je suivais aussi beaucoup sur les réseaux, etc., des grands coachs sur les croyances limitantes, les blocages, changer ses pensées. Et petit à petit, ma formation de coaching a rencontré l'écriture, et je me suis vraiment dit, mais en fait, je pourrais peut-être aider les écrivains, même si moi, je ne suis pas encore publiée, parce qu'à l'époque, je ne l'étais pas. Depuis, j'ai décroché quelques contrats, mais à la base, je ne l'étais pas. Alors, gros syndrome de l'imposteur, etc. Mais il y a un an et demi, j'ai créé un roman tel que plus ou moins il l'est aujourd'hui. Donc c'est un site où j'apprends aux écrivains en herbe à se lancer, à avoir les bases ou à aller plus loin. Il y a plusieurs options. Il y a des cours en ligne et des accompagnements. Et en fait, j'ai eu de la chance parce que juste après, il y a eu le confinement. Et en fait, le confinement a vraiment tout fait exploser mes réseaux sociaux et mon site. Parce que là, les gens se sont retrouvés parfois avec du temps libre et ce vieux rêve d'écrire. Pour moi, le confinement a été une très bonne chose parce que là, du coup, j'ai tout de suite pu croire aussi en mon projet. Peut-être que sans le confinement, j'aurais dû attendre quelques années. Là, j'ai tout de suite vu que ça marchait, en fait, qu'il me manquait des ajustements, il me manquait certaines choses, mais que ça fonctionnait, quoi. Et c'est un peu après que je me suis vraiment spécialisée parce qu'au début, je restais assez généraliste. Et l'aspect coaching n'était pas hyper marqué dans ce que je proposais comme cours en ligne, etc. Et c'est à la rentrée 2020, en septembre, que j'ai lancé mon offre qui s'appelle Les Explorateurs, qui est un membership vraiment basé sur du coaching, de l'auto-coaching, la confiance en soi. Parce qu'en fait, pour moi, c'est vraiment, vraiment ça qui compte finalement. Parce qu'écrire un livre, c'est un peu comme lancer son entreprise. C'est nébuleux, c'est difficile, c'est au long terme. Et comment on se motive au long terme, enfin, comment on se motive à court terme quand on ne voit pas le bout, quoi. Donc, c'est vraiment là-dessus que je me suis orientée. Et c'est ce qui marche le plus aujourd'hui et que j'aime le plus. L'écrivain qui se dit « Allez, j'y vais
!» Est-ce que tu penses que tu as trouvé ta mission de vie, entre guillemets ?
Alors,
le métier qui t'anime vraiment, tu vois ?
Clairement. Ma première séance de coaching, c'était je me suis vraiment dit « Ah ouais !» En fait, quand on parle de l'ikigai, tu vois, quand on parle d'une révélation, moi, c'était vraiment ça. Je me suis dit, ah oui, clairement. Alors après, je ne sais pas si j'ai tout qui est parfait, tu vois. Je me vois bien impacter un peu plus de monde, c'est faire peut-être des ateliers publics. Moi, j'aimerais bien voir les gens en chair et en os, tu vois.
Ouais.
Mais en tout cas, clairement, c'est quelque chose. Enfin, plus ça avance et plus je me dis, mais moi, c'est ce moment-là. C'est le moment où la personne, elle fait le saut, quoi. Ça pourrait me passionner. Je pourrais en parler pendant des heures.
Mais, du coup, c'est intéressant parce que tu as la double casquette écrivaine. Ça se dit écrivaine ?
Ouais.
Ok. Tu as la double casquette écrivaine et entrepreneur. Et du coup, tu es attentive aux différents textes qu'on peut écrire sur nos formulaires, nos pages de vente, nos publications Instagram, et t'as remarqué des petites choses qui étaient plus percutantes chez certains alors que le fond était le même, et toi t'as été en mesure d'identifier les différences.
Ouais, complètement. Je me suis vraiment... C'est assez drôle d'ailleurs parce que parfois, il y a des entrepreneurs que je suis qui disent « j'aime bien l'écriture ». Et je pense notamment à Annelise Gacala qui le dit de temps en temps. Mm-hmm. Et moi, je l'avais déjà remarqué tout de suite en fait parce que je voyais qu'elle écrivait, qu'elle soignait son texte en fait, qu'elle soignait un peu ses mots, ouais. qu'elle avait un peu le goût de donner, qu'elle faisait certaines figures, tu vois. Tout simple, hein, mais... Mm-hmm. Et parfois, dans rien qu'un post Instagram, bah, il va être beaucoup plus impactant. On va beaucoup plus s'en souvenir que sinon, même chez mes collègues écrivains, entre guillemets, bah parfois on a l'impression de lire un peu tout le temps la même chose et on oublie tout de suite. En fait, tu vois, sur Instagram, tu fais défiler, tu oublies, quoi. C'est assez rare ouais. qu'il y ait vraiment quelque chose qui attire ton œil. Alors, je parle pas de l'aspect visuel de la photo, là, je parle vraiment juste du texte. Donc, et pourtant, effectivement, c'est la base, en fait, parce que tout ce qu'on fait là sur le web, il y a des écrits derrière, même un podcast, même un site. Et effectivement, du coup, quand on regarde avec un œil un peu d'écrivain, on commence à... Enfin, quand on a en plus un peu l'habitude, on commence à voir pourquoi certains textes fonctionnent et pourquoi d'autres pas du tout.
C'est bien parce que tu vas nous en parler aujourd'hui. Et je rebondis juste sur l'exemple d'Annelise, parce que c'est vrai que j'adore recevoir ses newsletters, j'adore lire sa publication Instagram. Elle poste pas tout le temps. Mais quand elle poste, à chaque fois, tu peux être sûr que la légende, moi je vais la lire jusqu'à la fin, tu vois. Je vais vraiment aller où ? Parce qu'elle raconte bien les choses et qu'elle te met dans l'ambiance et que tu te sens investi. Donc, ouais, c'est sûr que quand c'est bien fait, peu importe le domaine dans lequel on est, ouais. Quand on écrit bien et qu'on fait l'effort de bien structurer ses textes, ça a un impact considérable.
C'est ça, et je trouve qu'on entend un peu sa voix, même quand... Alors, c'est pas obligé d'être quelqu'un dont on a déjà entendu la voix, d'ailleurs, mais des personnes dont on a l'habitude de lire les textes et qu'on adore. Et là, je me souviens aussi d'Alexandra Martel, je crois. J'avais jamais entendu sa voix, d'ailleurs, je crois que je l'ai toujours pas entendue. Mais par contre, je me souviens de ses posts, en fait. Je me souviens de sa... On voit qu'elle a un style, qu'elle a une façon de s'exprimer hyper percutante dans ouais. ses contenus. Même si, voilà, c'est pas forcément un texte qui va te passionner ou tu vas te dire « Ah ouais, c'est une révélation, tout ce qu'elle dit. » Mais par contre, ça va te happer, quoi. Et c'est vraiment ce truc-là où je me suis vraiment... où j'ai aussi réalisé, je me dis effectivement, quand t'es écrivain, tu devrais vraiment... avoir un petit avantage, entre guillemets, être capable de poser, comme tu dis, une ambiance, un ton, des mots. Mmh. Et je trouve qu'il n'y a pas... Parfois, il ne manque pas grand-chose pour que ça fonctionne vraiment bien, en fait.
Et c'est bien parce que tu vas nous en parler aujourd'hui.
Exactement.
Est-ce que tu veux commencer avec la première astuce pour rédiger un contenu ? Et là, quand on dit contenu, c'est vraiment tout ce que vous allez produire, hein, que ce soit des articles, des légendes Instagram, des scripts d'épisodes de podcast. Les conseils d'Ingrid d'aujourd'hui s'adaptent vraiment à tout. Donc, quelle est ta première astuce pour mieux rédiger ces posts ?
Eh bien, ma première astuce, c'est tout simple. C'est un peu comme quand tu regardes un livre. En général, tu sais en une seconde ou deux si ça va t'intéresser ou pas. C'est de happer dès le début. Et je pense à un post Instagram que j'ai vu il n'y a pas longtemps de Rimbuksimi où elle avait juste marqué « Tu peux garder ta Lamborghini ». Et bien, tout de suite, je me suis dit « Mais de quoi elle va parler ?» C'est marquant, ça t'accroche, même si après, tu peux être d'accord ou pas avec toi. Et si tu compares avec une légende Instagram où tu vas commencer par dire « Alors, je vais te raconter une histoire qui m'est arrivée il y a 3 mois, blablabla, blablabla. » Nous, on va pas entrer dans le texte tout de suite, quoi. Et dans les livres, c'est souvent comme ça. Les livres qu'on a vraiment adorés, on le sait au bout de 2 lignes qu'on va bien aimer. Et je trouve que c'est un peu pareil. Bon, alors, je parle d'Instagram, mais ça pourrait être un peu tout et n'importe quoi. Un site, vous voyez dès le début si la personne ne vous adhérait pas spécialement à sa façon de s'exprimer. Et donc, ça serait...
Ouais, un épisode de podcast. Hein.
Mais ouais,
tu sais tout de suite si tu quittes ou si tu continues à écouter.
C'est clair, je pense que soit tu t'es happé dès le début, soit pas du tout. Et ça marche sur plein de choses, dont justement les textes. Et clairement, si tu as quelque chose à te dire, dis-le dès le début, quoi. Ou en tout cas, donne-nous un aperçu. Dis-nous ce que tu vas faire dans ce texte. Moi, je trouve que vraiment la première ligne, les 2 premières lignes sont hyper importantes, quoi. Et c'est souvent ça, en fait. Si on regarde les posts Instagram qui nous ont marqués, ce genre de choses, souvent, c'était dès le début qu'on est happé dedans, quoi. C'est pas on lit 18 lignes sans faire trop attention, puis d'un coup, à la fin, il y a un truc épique, quoi.
Ouais, c'est vrai. Donc ça, c'est une chose à retenir pour bien captiver l'attention. Peu importe le support, c'est dès le début d'accrocher, d'être cash, d'attiser la curiosité peut-être aussi,
tu dirais ? Ouais, complètement. Justement, l'histoire de le post de Rim avec « Tu peux garder ta Lamborghini », ça fait un peu... Bon, j'aime pas le mot « putaclic », mais on va vraiment se dire « Ah ouais, oui, de quoi elle parle là ?» C'est pas... Voilà. Bon, faut pas tomber dans l'extrême, mais effectivement, de peut-être réfléchir à ce qu'on va mettre en premier ou comme titre. C'est ça le plus important, en fait. Limite, le reste du post, si c'est moins épique, c'est pas très grave. Mais effectivement, ouais, je dirais de teaser un peu, d'utiliser une formulation peut-être un petit peu plus cash que le reste, par exemple.
Ok, super. Alors, ta deuxième astuce, moi, je l'aime beaucoup. Et je le fais pas assez, tu vois. Je le fais pas assez, mais vas-y, parle-nous-en.
C'est ma préférée, c'est la description des émotions. En fait, et ça, c'est vraiment quelque chose que je remarque très souvent parce que dans presque tous les contenus, on va décrire des émotions pour dire « Ah, t'es frustrée quand t'arrives pas à faire ça, etc. » Mais ouais. Ce que fait un écrivain, c'est pas de te citer l'émotion en question. Il va pas te dire « t'es frustrée ». Il va pas te dire « je me sentais démunie ou impuissant ». Il va te détailler l'émotion. Il va te dire cette émotion-là dans ton corps, comment elle se manifeste. Il va la décrire. Et si tu les décris, en fait, ce qui se passe en écriture, c'est que le lecteur, il vit l'émotion avec toi. Alors que si tu lui dis juste « t'es frustré », le lecteur, il va dire « ok ». En écriture, ça s'appelle « show don't tell ». Ça veut dire « montrer plutôt que d'expliquer ». Tu lui montres. Tu lui dis « t'as la boule au ventre, t'as les genoux qui flageolent, t'as la gorge qui se noue ». J'avais... comme exemple là où si on dit je me sentais impuissante ou je me sentais démunie, tu peux la décrire de plein de façons différentes dans ton corps. En fait, tu peux avoir les larmes qui te montent aux yeux, tu peux avoir les joues qui te brûlent. Enfin, et ça, c'est vraiment des choses qui sont pas du tout faciles quand on débute. Ouais. Mais rien qu'essayer déjà, ça va tout de suite se relever entre guillemets le niveau et la connexion qu'on va faire avec la personne qui va nous lire. Parce que la personne là, si on lui dit qu'elle a la gorge qui se noue, qu'elle a la boule au ventre, elle est à l'intérieur de nous en train de lire le texte, quoi. Elle n'est pas quelque part ailleurs. Et ça resserre vraiment le lien avec la personne qui nous lit.
Ça, c'est une astuce que tu utilises dans tous tes supports pour le côté entrepreneur. Genre par exemple, je ne sais pas, sur une page de vente ou dans des emails.
Ouais, complètement. Alors, les pages de vente, un petit peu moins parce qu'elles sont assez courtes, les miennes, entre guillemets. Je ne rentre pas trop dans le détail. Mais c'est vrai que j'essaye quand même de vraiment utiliser un petit peu cet aspect... Ouais, immersion, quoi. Immersion dans ce que j'écris. Et par contre, ouais, dans les mails, dans les épisodes de podcast, là, je me fais plaisir. Et par exemple, dans l'épisode de podcast que j'ai sorti sur mon parcours, vraiment, j'ai décrit mon parcours en plusieurs étapes. Et quand j'ai mis le point final de mon premier roman, je dis « je pousse un cri de joie ». J'ai pas dit « ah, j'étais super contente ». J'ai dit ce que je faisais, en fait. J'ai décrit un mouvement, j'ai décrit un cri, et c'est beaucoup plus impactant pour la personne. On s'imagine en train de pousser le cri de joie avec moi, tu vois, par exemple.
Ouais, c'est vrai. Tu vois, c'est des détails auxquels on pense pas du tout, mais effectivement, maintenant que tu me le dis, je me dis, bah ouais, c'est vrai, en fait. Si tu le dis comme ça et que tu l'exprimes vraiment, je le sens au fond de moi, en t'écoutant ou en te lisant.
Et ouais, c'est ça. Alors qu'effectivement, en plus, parfois, les personnes, elles vont énumérer un peu plusieurs émotions à la suite. C'est pas du tout impactant, tu vois, ouais. De faire ça comme ça. De dire « Ah, je me sentais triste, déprimée, impuissante, démunie. » Enfin, ça passe un peu et tu fais pas attention. Par contre, si vraiment t'en prends une et tu la décris, la personne, elle va la vivre. Et là, elle va s'en souvenir. Mmh. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est en fait, les écrivains, dans leurs livres, ils ont des tas d'informations à te donner. Et tu vois, si je te dis là, ma date de naissance, tu vas l'oublier au bout de 5 minutes. Si par contre, je te l'ancre avec une émotion, tu vois, si je te dis « Ah, le jour où je suis née, c'était tel jour et mon père a failli s'évanouir à la maternité parce qu'il était… » Et tout de suite, il y a une émotion derrière et c'est ça qui va ancrer, en fait. D'ailleurs, quand on apprend un texte, on essaye aussi de retenir avec des moyens mnémotechniques et c'est souvent des souvenirs avec une émotion aussi. Donc, ça double emploi. Ça permet de bien se souvenir et en même temps, ça renforce notre connexion avec la personne qui nous lit.
Carrément, je pense que c'est un point important et j'ai envie de dire même s'il y a une chose dans toutes les astuces qu'on va partager après à retenir vraiment importante, c'est celle-là, ouais. D'écrire les émotions.
Et puis ça a sûrement l'air intimidant hein, quand on débute parce que même les personnes qui sont écrivains, ils ont du mal parfois avec ça, ils se disent mais comment faire parce que telle émotion, bon, la, je sais pas, bah, typiquement la colère, bon, si c'est pas quelqu'un qui se met souvent en colère, c'est un petit peu difficile, donc c'est sûrement intimidant, mais il y a des pistes. Il y a déjà essayer de s'imaginer. De se souvenir une fois où on était vraiment en colère et d'essayer de décrire un petit peu. Il y a tout simplement de lire et de noter quand on voit que c'est bien fait dans un livre, eh ben on peut s'en servir. Et les écrivains, on n'invente pas non plus tout ce qu'on écrit, hein, on s'inspire fortement. Souvent, moi, je sais que je note énormément justement les phrases qui me plaisent, les formulations qui me plaisent chez certains, pas que des écrivains d'ailleurs. Et il y a aussi une petite astuce qui m'a été donnée par Xavier Klein, c'est si jamais cette émotion-là, vous la vivez, pour bien s'en souvenir, dites faire un petit geste pour ancrer un petit peu le souvenir, quoi, de se dire, je ne sais pas, justement, si tu ressens une super grande joie et que tu lèves les bras, eh ben, tu te souviendras plus facilement en relevant les bras, tu arriveras à décrire ce que tu ressentais à ce moment-là.
C'est une très bonne astuce, ça. C'est vrai que, tu sais, maintenant que tu le dis, ça me fait penser Alors, dans un tout autre contexte, je crois que c'était... je regardais un truc sur la prise de parole et le fait de surmonter sa peur de parler devant un public. Et en fait, pendant que la personne s'entraînait, je crois qu'elle touchait son poignet ou un truc comme ça. Et du coup, juste avant de monter sur scène, pour se remettre dans l'émotion et pas se laisser submerger par la peur, bah, elle touche son poignet, tu vois, pour se rappeler de... voilà, j'ai ressenti telle chose et je vais y aller, et je vais bien le faire, tu vois.
Ah, ça m'étonne pas. Ça marche super bien.
Ouais. Et du coup, aux émotions, tu ajoutes aussi les sens.
C'est ça. En fait, ça, je les dissocie pas trop. Mais effectivement, pour moi, c'est vraiment les... Je disais, tu vois, les clés pour ancrer une information, c'est les émotions. Bah, y a aussi les sensations. Et même, ça va de pair. C'est-à-dire que pour que le... Là, je parlais de décrire une émotion au lecteur. Ça marche aussi avec les... ce que tu vas décrire comme scène. Tu vois, si tu lui dis... ah, bah, c'était un jour de mai, j'ai découvert le podcast de Safia. Bon, OK. Tu étais où ? Tu vois, il faisait quelle température ? Enfin, en fait, et utiliser vraiment les cinq sens quand on parle de quelque chose, pareil, ça va parler au lecteur. Je ne sais pas d'ailleurs si tu le sais, mais il y a plusieurs types de communication. On a différentes façons de recevoir l'info et de la donner. Et normalement, c'est souvent selon trois axes. C'est la visuelle, sonore ou par le mouvement. C'est intéressant parce que ça veut dire que même si toi, tu décris super bien, mais visuellement, et que tout ce que tu écris, c'est toujours avec des images visuelles, et, etc. Et ben si une personne est sonore, par exemple, moi, je suis une personne très sonore, ben elle ne va pas forcément, tu vas être immergée à 100% dans ce que tu écris. Alors que si tu essayes de varier un petit peu, ben là, ça marche mieux, tu vois, de parler à la fois des bruits. Là, j'essaie de dire, ben, tu vois, si je te parle de ce jour où j'ai découvert ton podcast et que je te dis juste, bon, bah, c'était en mai, et puis mai 2019, j'ai découvert ton podcast. Bon, bah, tu auras oublié l'information, pareil, dans 5 minutes. Si je te dis, ah, bah, c'était en mai 2019, et en fait, il faisait tellement chaud, et moi, j'étais à vélo. Et en fait, quand j'ai entendu ce que tu disais, à un moment, j'ai eu un déclic, je me suis dit, mais elle a complètement raison. Et j'ai arrêté mon vélo, alors qu'il y avait plein de monde qui passait sur la route, tu vois, et je me suis mis sur le trottoir pour écouter la suite de l'épisode. Mais là, tu vois tout de suite que tu es complètement dans l'histoire, en fait. Tu visualises le truc, tu t'entends peut-être le bruit des voitures, tu vois, et tu rentres complètement dans la scène, alors que la première phrase, elle restait très, très théorique, tu vois. Et ça, c'est le genre de façon d'écrire qui fait un peu débutant, tu vois, il n'y a pas trop de détails, il n'y a pas trop de sensations, et ça marche beaucoup moins bien. Tu vois, si tu as vraiment envie d'écrire, par exemple... de décrire un épisode de ta vie, là, c'est vraiment le moment où tu peux y aller sur les cinq sens. Tu n'es pas obligé de tout mettre, bien sûr, mais d'en mettre un ou deux. Là, nous, on va être happé en fait, dans notre lecture, quoi. Moi, j'aime bien dire que les détails et les sensations, c'est les hameçons, tu vois, qui vont happer ton lecteur. Tu en mets un, il n'y a pas un nombre limité, tu vois, tu peux en mettre plein.
Ouais.
Et c'est un peu ce que j'ai fait, tu vois, je t'ai parlé de la route, la chaleur, le machin. Et tu vois, ça choque pas, au contraire, on est à fond dedans, tu vois, on suit l'histoire.
Mais c'est clair, on a envie de dire, vas-y, continue,
ouais.
Dis-moi en plus, mais c'est vrai, hein. Mais en fait, on n'y pense pas, et ce que tu dis là, j'ai envie de dire aussi pour les personnes qui nous écoutent et qui vont se dire, ok, mais je sais pas le faire, ça a l'air compliqué. Alors déjà, dans un premier temps, je pense que c'est quelque chose qu'on apprend avec la pratique,
bien sûr,
que c'est pas du jour au lendemain qu'on va être, qu'on aura des aptitudes à tout ça. Et aussi, je le mentionne maintenant, mais on va en reparler à la fin, t'as aussi préparé un e-book sur le sujet, pour mieux écrire.
Clairement. En fait, justement, comme tu le dis, c'est la pratique qui compte. Tout ce que je dis, c'est bien beau, mais ça marche mieux quand on l'expérimente soi-même. Il y a peut-être des choses qui vont fonctionner super bien sur certaines personnes qui vont adorer décrire les émotions. Pour d'autres, ça va être « Oula, c'est pas mon truc ». Et effectivement, moi, du coup, je propose un petit e-book pour s'entraîner sur un petit peu toutes ces thématiques-là.
On le mettra dans les notes de l'épisode. Alors, jusqu'à présent, on a vu le fait d'accrocher dès le début. Le fait de décrire les émotions et de mentionner aussi les sens.
Ouais.
Pas hésiter à détailler au maximum. Ta prochaine astuce, c'est quoi ?
Alors, ma prochaine astuce, ça va être le rythme. On rejoint un petit peu le côté, comment dire, accroché. Et là, c'est un exemple qui est pour le coup très visuel. C'est si je te dis, ah bah, il y a une photo sur Instagram qui attire un petit peu ton regard. Et du coup, tu regardes la description et tu vois un énorme pavé. Bon, en général, ça ne donne pas envie de le lire. Et ça a l'air bête, mais c'est exactement ça. Et ça, c'est juste comment marche l'œil humain, tu vois. On a l'habitude de... Enfin, notre œil a une façon de bouger particulière. Et ça va fonctionner, par contre, si ben, on va souvent à la ligne, si c'est aéré. Et d'ailleurs, si tu as envie de dire un truc important, il y a des statistiques comme ça qui montrent qu'on retient quasiment pas ce qui est au milieu d'un paragraphe, tu vois. Il faut que ça soit au début d'un paragraphe ou à la fin. Donc, pareil, c'est pour ça que dans les livres, souvent, s'il y a une révélation, ils ne vont pas la mettre en plein milieu d'un paragraphe parce que, limite, tu peux la zapper, tu vois. Ouais. Et du coup, c'est mieux. Si par contre, tu vois, tu fais ton petit paragraphe, ta petite montée en puissance, pour que ce soit dans un livre ou n'importe quel contenu, vraiment. Et puis que là, tu dis, je sais pas moi, mais en fait, je me trompais, point. Juste une toute petite phrase en plein milieu, mais là, tout de suite, ton œil, il est complètement attiré par cette petite phrase-là. Et d'ailleurs, on parlait d'analyse, c'est aussi en regardant un petit peu, j'ai re-regardé pour l'épisode de ce qu'elle faisait, j'ai remarqué qu'elle aérait beaucoup ses textes, justement. Je me souviens d'un extrait où elle disait « Je ne veux pas faire ça, je veux être libre », tu vois, un texte un peu comme ça, ouais. Et en allant à chaque fois à la ligne, en fait. Ça peut avoir l'air un peu bête, mais pour le lecteur, il va avoir beaucoup plus envie de lire. Il va être beaucoup plus attiré par des phrases comme ça qui se suivent en allant à la ligne, etc., plutôt que par un gros pavé, ou même si c'est super intéressant, tu vois.
Ouais, et ça, ça peut paraître être un détail évident. Pour autant, j'ai envie de dire, tout le monde n'y pense pas, tu vois. Donc, et effectivement, ça change tout, hein. C'est vrai que si tu mets un texte qui est très aéré, avec des sauts de ligne fréquents, ce sera beaucoup plus facile à lire que si tu me fous un gros pavé. Hein. Je ne vais pas le lire.
Bah oui. En fait, on ne le lit pas. C'est ça. Même si tu es super intéressé, tu ne le lis pas. C'est ça ce qui est fou. Ton œil...
C'est ça. Puis ça va aussi avec les emails de newsletter. Hein. Ouais. Quand je reçois un email de newsletter qui n'est pas du tout aéré ou c'est des gros blocs, ben, je n'ai pas envie de lire.
C'est ça. C'est dommage parce que souvent, en plus, les newsletters, c'est là où tu peux vraiment plus t'exprimer, raconter un petit peu plus personnellement. Mais comme tu le dis, si c'est des gros pavés, ben, on n'a pas spécialement envie. Pareil, si c'est... tu vois, très long, même si ça va souvent à la ligne, ben on va peut-être perdre justement les... Alors, j'ai highlight en tête, j'ai pas spécialement, mais voilà, les phrases importantes, en fait. Mm-hmm. Et justement, celle-là, c'est sur celle-là qu'il faut mettre le paquet. Alors, en plus, parfois, selon le type de contenu, on peut peut-être utiliser aussi le côté police, mettre du gras ou un truc comme ça. Mais si on peut pas, la base, ça serait, ouais, va à la ligne, montre-nous, en fait. Il faut vraiment qu'on mette un cadre, tu vois, autour de la phrase, un cadre blanc dans la tête pour dire... Cette phrase-là, je veux qu'il la voie. Je veux vraiment que son œil soit attiré par cette phrase-là. Et par exemple, plus elle est courte, plus ça fonctionne, tu vois. Je me trompais, point. Ça, c'est, tu vois, on se souvient de mails ou de textes comme ça parce que justement, on a vu une phrase super courte en plein milieu, là. Ça nous a marqué.
C'est vrai. Puis c'est une astuce des copywriters aussi, j'ai remarqué. Hein.
Ouais.
Ceux qui font pas mal de copywriting, ils font pas de paragraphes. Ils font que des petites phrases très courtes, très impactantes.
C'est clair. C'est vrai que moi, j'ai un peu les petites bases du copywriting parce que c'est deux domaines qui se chevauchent un petit peu, justement, mais ils se chevauchent ouais. Un petit peu sur cette partie-là où on veut aussi attirer l'œil et on veut pas que le lecteur s'en aille. Et j'aime beaucoup, du coup, ouais, voir aussi, observer comment font les autres, tu vois, pour attirer l'œil. Et parfois, bah, c'est tout bête, ouais, c'est une petite phrase par ici, c'est, tu sais, une petite montée en puissance, tu vois, t'as des petites phrases, puis après, t'as une longue phrase, mais qui est la phrase, le message, tu vois, enfin, c'est intéressant. Et pour ça, bah, mon conseil, encore une fois, ça a sûrement l'air compliqué, hein, tout ce que dit comme ça de manière très théorique, mais c'est d'essayer et aussi de regarder ce qui marche chez les personnes que vous aimez bien, quand on voit un texte, de vraiment de se dire « Ah ouais, non, mais là, ça marche super bien, pourquoi ?» Et je l'ai fait sur mes écrivains préférés, mais je le fais aussi de temps en temps quand je lis un peu les posts des autres entrepreneurs. Et souvent, ouais, on se rend compte que c'est pas forcément très recherché, tu vois. Mais ben, par exemple, là, c'est vrai que je repense à ce post d'Anise où elle disait « Je veux vivre ma vie, je veux faire ça ». Mais justement, comme il y a une répétition au début, ben, c'est plus simple. Tu vois, c'est plus simple à retenir aussi et c'est plus simple à voir. Et parfois, c'est tout bête. Il y a aussi les emojis, d'ailleurs, pour sortir un peu du côté écriture. Mais ça attire l'œil.
Ouais. C'est vrai. Moi, je n'hésite pas à en abuser quand je trouve que mon texte est trop... qu'il a besoin d'un peu de peps, tu vois. D'un peu de vie aussi. Ben, les emojis, c'est bien aussi pour ça, quoi.
Mais ouais. On veut pas ennuyer le lecteur, quoi. Il peut décrocher tellement vite, ce serait tellement dommage. C'est pour ça que je trouve que c'est intéressant de penser visuel, en fait.
C'est clair. Et du coup, tu conseilles aussi d'adopter un certain style dans notre écriture.
Ouais. Alors lui, bah, c'est un peu le plus dur, entre guillemets. Travailler son style, c'est un peu un travail qui est un peu en perpétuelle évolution. Effectivement... Ouais. Même quand on est écrivain, on a toujours des milliers de doutes sur son style. Mais du coup, bah, j'ai une petite astuce déjà pour commencer. C'est que souvent, on a l'impression que, voilà, que le style d'écriture, c'est que pour les grands écrivains, etc. Mais il y a déjà quelque chose que font les bons écrivains, entre guillemets, et pas forcément les personnes qui débutent, c'est de mettre une idée par phrase. Par exemple, si je te dis... que tu vas devoir me décrire un petit peu le contexte, me dire ce qui s'est passé et me dire ce que tu en as pensé. Et bah, quand on est un écrivain débutant, on va dire un jour à la gare, alors que j'attendais mon train, j'ai trébuché sur un truc et horrifié, j'ai commencé à courir après le train. Et en fait, on se perd dans les phrases et on perd complètement le lecteur et le lecteur, il décroche. Mmh. Par contre, si je te dis, c'était à la gare le 8 juin, j'attendais là. Et en fait, je mets la description dans une phrase. Soudain, j'étais trébuché sur un truc. Et là, boum, pareil, ça va attirer l'œil. Ça, c'est la phrase où il y a l'action. Et du coup, horrifié, je me suis souvenu que dans ce... que la chose que j'avais cassée était hyper importante. Enfin, et en fait, et là, pareil, j'ai mis la pensée dans une autre phrase. Et ça, c'est un petit peu une... Alors, ça doit avoir l'air un peu difficile, dit comme ça. Mais c'est assez facile quand on écrit la phrase devant soi et qu'on regarde... Comment je pourrais la diviser pour que ce soit plus simple ? Et c'est là aussi qu'on va justement réussir à faire des phrases vachement impactantes parce que l'idée qu'on va donner, tu vois, elle va ressortir. Ça sera une phrase, tu vois, ça ne sera pas un bout de phrase noyé dans une longue phrase qui fait trois lignes. Ça sera un petit bout où on dit « mais je me trompais complètement, j'ai eu une révélation », tu vois, et juste une petite phrase comme ça. Et là, tout de suite, pareil, on attire l'œil, on crée un rythme aussi, tu vois. Mm-hmm. Et justement, le petit exemple que j'avais... donné la dernière fois où je poussais le cri de joie, ça aurait pu être une phrase très très longue parce que c'est pareil, c'était dans l'extrait du podcast où j'étais en train d'écrire mon livre, j'approchais du point final, d'un coup j'ai réussi, j'étais trop contente, paf. Et en fait, justement, dans le podcast donc, et dans la retranscription, j'ai fait des phrases très courtes. Je m'étais juré d'écrire ce roman en 2018 et il me reste quelques heures. Ça y est, j'ai terminé, je pousse un cri de joie, j'ai achevé un roman, il s'appelle « Cri dans le chaos ». Et tout de suite, du coup, tu vis beaucoup plus le truc, tu vois, t'entends, tu vis un peu les sensations qui vont avec, parce que imagine sinon un gros paragraphe que tu aurais lu comme ça, tu seras un peu perdu en cours de route, quoi.
C'est clair, mais maintenant que tu le dis, c'est vrai que c'est... tu te rends compte de l'impact. Toi, alors, t'as un podcast depuis 2 mois, si je me trompe pas.
Ouais, depuis début février.
Voilà, et tout ce que tu nous partages aujourd'hui, c'est quelque chose que tu utilises, alors pas forcément dans tous tes épisodes, j'imagine, parce que personne n'a le temps pour ça, mais en tout cas, c'est des conseils que tu appliques dans la rédaction des scripts de tes épisodes.
Oui, tout à fait. En fait, j'applique ça vraiment partout, parce que j'ai l'habitude aussi, c'est sûr, c'est quelque chose qui se fait petit à petit. Ouais. Mais par contre, justement, je parlais de l'épisode sur mon parcours. Lui, j'ai vraiment reçu plein de réactions, de messages, de personnes que ça avait énormément ému, etc. Et c'est l'épisode sur lequel, justement, j'ai essayé de l'écrire. J'ai mis 2 semaines à l'écrire, hein, pour le coup. Des fois, j'écris un épisode en 1 heure. Mais lui, je me suis vraiment dit, là, je vais mettre tout ce que j'aime, tu vois. Je vais vraiment me faire plaisir et écrire un super beau texte. Et ça m'a pris super longtemps. Mais j'ai vraiment mis tout ce genre d'astuces-là dedans. Et ça peut sembler bête, mais c'est ça qui a fait qu'il était plus immersif et plus touchant que d'autres, tu vois. Parce que sinon, mon parcours, les personnes le connaissaient souvent déjà. Typiquement, je pense à une de mes coachées qui connaissait très très bien mon parcours et qui avait vraiment dit qu'elle avait pleuré quand elle avait écouté l'épisode. Donc c'était juste une histoire de formulation, de trouver les bons mots et de les agencer.
Mm-hmm. Ouais, alors on n'aura pas forcément ton niveau, mais je pense que c'est un truc qu'on peut d'ores et déjà mettre en place de notre côté, à la fois en tant qu'entrepreneur, mais en tant que podcasteur, puisque quand même le podcast que tu as lancé il y a 2 mois, il fait déjà, je crois qu'il a fait sur les 2 mois 1500 téléchargements.
3000.
Oui, 3000. C'est-à-dire 1500
ou, ouais.
Ouais. Ce qui est quand même beaucoup pour un démarrage, donc ce qui est vraiment cool. Et du coup, je me dis que ça a une belle partie, en fait. Toute l'expertise que tu nous partages aujourd'hui et la façon de raconter les choses, ça joue forcément. Puisque si tu nous diffuses des épisodes qui sont à la fois impactants, qui sont bien racontés, où on va pouvoir s'attacher à toi, se reconnaître dans ce que tu dis, s'identifier, on aura plus de facilité à revenir et à écouter la suite, quoi.
C'est ça, même... alors, sur mon parcours, c'était plus simple. Parce que justement, là, c'était un peu du storytelling. Je pouvais raconter un peu ce que je voulais. Effectivement, là, par exemple, j'ai fait un épisode où je résume un peu un livre. Bon, là, on est un peu limité. Mais parfois, tu vois, quand t'as un petit peu ce réflexe de regarder comment tu peux formuler au mieux, ça aide, je pense, quand même, notamment à ce que les personnes s'en souviennent, ouais, et comme tu dis, aient envie de revenir. Et c'est vrai que ce que j'aimerais bien dire aussi, c'est que ça semble sûrement difficile. Parce que déjà, rien que quand on est écrivain, ça semble difficile. Et en fait, c'est bête, mais je crois qu'on en a parlé au début d'épisode en disant « Ah, pour écrire, il faut du talent. » Mais en fait, non, c'est le contraire. Pour avoir du talent, il faut écrire. C'est juste de la pratique, en fait. Mmh. Et effectivement, au début, on est perdu. Il y a 15 000 conseils dans tous les sens. D'ailleurs, dans cet épisode, il y en a déjà plein. Donc forcément, c'est confusant, c'est normal. Par contre, quand on s'entraîne, il y a certaines choses qu'on va commencer à maîtriser, tu vois. Si tu t'entraînes à écrire, par exemple les émotions, si tu t'entraînes à le faire régulièrement, ben ça devient naturel. C'est que de la pratique, tout ça. Moi, quand j'ai débuté, je faisais absolument tout le contraire de tout ce que je dis dans l'épisode. et c'est normal. Je disais les émotions au lieu de les décrire. Je faisais des phrases interminables. Les cinq sens, on les oublie. Et par contre, quand tu essayes, en tout cas, de garder en tête un des aspects, déjà, ça marche déjà mieux. D'ailleurs, un des conseils... Ouais, vas-y.
Non, c'est juste ce que j'allais dire. C'est que même si on n'est pas forcément en mesure d'appliquer tous les conseils que tu as donnés aujourd'hui, on peut en mettre un ou deux en place. Et, enfin, tu vois, genre juste décrire ses émotions et accrocher dès le début. C'est des choses que tout le monde peut faire dès maintenant, dès l'écoute de cet épisode.
C'est ce que j'allais dire, ouais. En fait, mes coachés, je leur dis en général de garder un seul conseil en tête quand ils écrivent. Parce que déjà, écrire, c'est déjà difficile. En plus, essayer d'écrire ce qu'on a en tête, le restituer, structurer, etc., déjà, c'est compliqué. Alors, si en plus, tu as 12 conseils d'écriture en tête, ça ne va pas marcher. Mais par contre, effectivement, comme tu dis, accrocher dès le début, on peut le garder en tête. C'est juste sur le début. Puis après, on relaxe, on passe à autre chose. Et surtout, ce qui est hyper important et que je n'ai pas encore dit, à mon grand déshonneur, c'est que c'est des conseils que tu peux appliquer une fois que le truc il est écrit, en fait, et que tu le corriges. Tu vois, t'écris ton extrait tel que tu l'as en tête. Et tu viens derrière regarder si tu as bien décrit l'émotion, tu retouches un petit peu. C'est vrai que je n'ai même pas pensé à le dire, tu vois, parce que pour moi, c'est un peu évident. Mais en fait, mieux vaut peut-être écrire tranquillement et sans pression et venir corriger derrière avec ces conseils-là, plutôt que du coup se mettre à bloquer parce qu'on se dit « Ah mais non, c'est nul ce que j'écris, mon émotion, elle est nulle, etc. »
C'est exactement ce que j'aurais fait, moi, tu vois. Si tu ne l'avais pas précisé, j'aurais commencé direct en me posant et en me disant « Ok, il faut que j'écrive les émotions. » Alors que pas du tout. C'est un truc, comme tu l'as dit, qu'on corrige par la suite, quoi.
C'est ça. Nous, on dit en écriture que tout ce que tu écris est un brouillon, en gros, et que tout dépend du nombre de fois que tu vas le corriger. Et même pour un épisode, je sais que moi, par contre, je viens souvent corriger parce que je fais exactement ce que j'ai dit là. J'écris sans me prendre la tête, puis après, je commence à regarder, à jeter un petit œil. Et d'ailleurs, ça fait partie des petites astuces aussi, cette histoire d'œil, justement, particulièrement aiguisé ou pas. Mais en tout cas, je pense que... Et puis, c'est plus déstressant, quoi, d'écrire un peu sans pression, puis après, quand même, de te regarder et de se dire « Alors, comment je pourrais agencer ça pour qu'un œil soit bien happé ? Comment je pourrais améliorer mes émotions ? Rajouter un petit peu de sensation par-ci, par-là ? » Ça, même dans mes livres, c'est un truc que je fais après coup, tu vois, parce que j'écris de manière un peu minimaliste et après, je viens rajouter des touches... de sens, d'émotion.
Mais en tout cas, je te remercie pour tous les conseils que tu nous as partagés aujourd'hui qui, je suis sûre, vont aider plein d'entrepreneurs à démystifier cette notion de storytelling, tu vois. Je pense que quand tu as ça en tête et que tu as des points sur lesquels travailler, c'est beaucoup moins compliqué et tu te rends compte que t'es capable, tu vois. Tout le monde est capable de créer un texte percutant.
Mais ouais, en plus, quand on entend storytelling, ça fait un peu peur, tu vois, parce qu'on se dit « Mais moi, mon histoire, elle n'est pas intéressante, etc. » Mais là, j'ai juste donné des astuces sur la forme. Le fond, j'en ai pas parlé, en fait. Et du coup, tu pourrais décrire, je pense, de manière complètement épique, un truc assez anodin, juste en mettant bien les émotions, en choisissant bien comment tu vas agencer tes phrases, etc. Donc, faut pas se mettre trop de pression. Et de toute façon, c'est ce que je disais, pour y arriver, pour avoir du talent, il faut écrire. Donc, la meilleure façon d'y aller, c'est juste de s'entraîner, en fait.
Ouais, et puis de toute façon, si vous avez envie d'en savoir plus et de passer à la pratique, je vous mettrai l'e-book d'Ingrid dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup, Ingrid, pour ton temps et pour tes belles astuces. Je te promets que c'est de l'or en barre, comme on dit.
Ça fait
c'est
plaisir.
Hyper utile, hyper concret, et je suis contente pour ça, donc merci beaucoup.
Avec plaisir.
J'espère que cet épisode avec Ingrid vous aura plu et vous aura permis d'avoir quelques astuces pour mieux rédiger votre contenu. Alors pour rappel, voici les 4 astuces. La première étant d'accrocher dès le début. La seconde étant de vraiment décrire les émotions et aller dans le détail. La troisième, c'est le fait de parler aux 5 sens. Et la quatrième étant de rythmer et d'aérer votre texte, d'avoir quelque chose qui soit fluide. Comme indiqué dans cet épisode, si vous avez envie de travailler sur tout ça, Ingrid a mis à disposition un petit contenu à télécharger gratuitement que vous retrouverez dans les notes de cet épisode. Et si vous souhaitez la retrouver sur les réseaux sociaux, il suffit d'aller à J'écris un roman et vous avez également son podcast Le Café des Auteurs. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à partager cet épisode autour de vous. Et pour ma part, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux contenus autour de l'entrepreneuriat, du mindset et de la stratégie.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.